look out, Knight. Cooper got mad and angry eyes. One look from him can paralyze. Resist at any time.
Salut à tous, il est 18h et c'est l'heure de votre émission C'est de la locale. On reste ensemble jusqu'à 19h. Vous nous écoutez sur la 90 FM dans l'Orne et dans le reste du monde sur notre site internet www.radiopulse.fr. N'hésitez pas à nous suivre, hein, comme je vous le dis tous les soirs, sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour ne rien manquer des actualités de votre radio rock favorite. Alors au programme de ce soir, des interviews de Chauffer dans la noirceur, on en a écouté hier, il y en a d'autres qui arrivent, notamment l'interview choc du groupe Téléraptor par notre chère Héloïse. On écoutera bien évidemment de la musique pour clôturer cette semaine en beauté. Et en attendant, eh ben moi je vous propose d'écouter l'interview de Téléraptor faite par Héloïse et moi.
Direct de Chauffer dans la noirceur, on est dans l'espace VIP avec le plateau de la musicale. On va recevoir tout de suite Toyo et Tecto Dallas de Téléraptor. Bonsoir messieurs.
Salut.
Salut.
Je laisse Héloïse et Maë vous interviewer, c'est elles qui ont tout fait.
Comme d'hab.
On travaille comme d'habitude.
Comment ça va les gars?
Oui, ça va très bien.
Excité? Ouais,
bien,
ouais. À l'idée de monter sur scène?
Ouais, de ouf.
Ça marche. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes, présenter un petit peu le groupe pour nos auditeurs?
Téléraptor, bah, c'est moi qui suis à la prod et Texto qui est à la voix. Et voilà, on est un duo qui mélange rap, gabber, sonorité années 2000. Un peu tous les trucs avec lesquels on a grandi, avec lesquels on a commencé à faire la fête, quoi.
Okay. Voilà. Pourquoi Téléraptor?
Téléraptor, en fait, on trouvait pas de nom. Du coup, on est allé au musée Beaubourg pendant 2 heures dans la bibliothèque. On a regardé tous les livres et on a déterminé un nom au bout de ces 2 heures de recherche. Il y a rien de plus stupide.
Okay. Ouais, quelle légende.
Ouais. Ça sonne bien au final, hein, tant mieux.
Ah, si, mère.
Merci.
Comme quoi.
On a regardé un petit peu vos clips sur YouTube. Il y en a un qui m'a marqué forcément. Je voulais savoir comment s'est passé le tournage de Itchy Gang.
De Itchy Bang. Alors, il se trouve qu'on a un truc. En fait, on loue un garage à Paris dans lequel il y a un doigt d'honneur de 3,80 m de haut avec le doigt, le majeur détachable. On a fait sculpter ce doigt pour le clip par un sculpteur de cinéma. Je crois que ça a été peut-être ça, la partie la plus extraordinaire de ce clip, non?
C'est tout le clip ne repose que là-dessus, en fait. On a juste pris ce fuck et on l'a travaillé un peu partout en Normandie. Et on a fait les cons devant.
Pas loin d'ici, d'ailleurs. On a tourné pas loin d'ici, ouais.
De ouf, juste à côté.
Ok, je continue. Pour reprendre une de vos chansons, alors je cite, « Je te dirai je t'aime si tu me suces comme il faut. » Est-ce que c'est encore... entre guillemets acceptable d'avoir des propos comme ça en 2021, est-ce que ce serait pas un petit peu borderline voire provoquant?
Ah ouais, bah là je pense qu'on est totalement dans un sujet très 2021 justement. Ouais, c'est grave border.
Si, en fait, si tu regardes bien, si t'écoutes bien, Téléraptor, c'est Texto, il joue le rôle d'un loser, en fait. C'est-à-dire que t'écoutes bien ses paroles. Faut aller un petit peu plus loin que ce que tu peux écouter juste comme ça, mais finalement en fait ça raconte l'histoire d'un mec qui voudrait être comme ça mais qui finalement rentre tout seul chez lui tous les soirs, quoi, tu vois. Et donc pour ça c'est je sais pas, ouais, du coup ça passe un peu mieux, je dirais.
Pas forcément, mais on comprend la gêne.
Ok, donc moi je vais,
c'est un parti pris,
moi je vais en rajouter encore.
Oui.
Il y a certaines paroles qui peuvent gêner, bah, je trouve, sur Bakli par exemple. Nos vies sont si fragiles comme l'hymen d'une ado, ou encore dans Itchy Bang, il y a Je me tape une queue sur Canal J. Vous provoquez quoi en racontant ça? Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer?
Alors, c'est pas de la provoque, justement, c'est juste de l'expression.
Okay.
Je pense qu'avant tout, la musique, c'est une moyen de cracher des choses qui nous pèsent. Un peu tout le temps, c'est un milieu d'écriture. Et quand on écrit, on a tendance à... Enfin, moi, je pense pas aux personnes qui vont écouter ma musique, en fait. J'écris juste ce que j'ai envie de dire. Et c'est un monde qu'on a créé. Et du coup, c'est une manière d'expier. Voilà, c'est la musique impulsive.
Mais du coup, c'est pour exprimer quoi, ces paroles?
Ah, tu veux savoir exactement, spécifiquement
Bah oui, parce que du coup, je comprends pas.
Si je me trompe pas, je me tape une queue sur Canal J, c'est qu'on a tous un peu fantasmé sur des dessins animés quand on était gamin, tu vois.
Je vais pas tous vous les citer, hein. Mais il y a beaucoup de caractères.
La première fille nue que j'ai vue, c'était Sailor Moon, tu vois, qui passait sur Canal J, en l'occurrence. et nos vies sont si fragiles comme l'hymen des ados, bah
ça c'est purement gratos. Voilà.
Ok, avec la première explication ça passait mieux, là ça passe un peu moins je trouve.
Non, je pouvais pas rebondir sur deux explications comme ça, celle-là elle est gratuite.
Ok, bah c'est gratuit, d'accord.
Là vous êtes classé sur les plateformes de streaming donc en rap. Quand on écoute un de vos morceaux, il n'y a pas forcément que ça qui ressort. Moi je voulais savoir, vous, à titre individuel tous les deux, dans quel style musical vous vous positionnez? Est-ce que déjà vous vous positionnez sur un style musical en particulier?
Très bonne question.
Bah c'est compliqué, on fait de la musique de kermesse. Du coup le côté rap c'est quelque chose dans lequel on a commencé, mais c'est pas forcément dans lequel quelque chose dans lequel on a envie d'évoluer ou quoi. C'est ouais, acide, rave, rap, enfin il y a tellement de choses mélangées en fait, on est tellement porté par des influences aujourd'hui qu'on a on n'a pas envie de se positionner, et même nous-mêmes on sait pas comment se positionner quoi. Voilà.
Il n'y a pas besoin d'avoir de positionnement non plus, hein. Moi c'était juste...
Ouais, non, ouais. Je pourrais pas okay. Réussir à nous labelliser comme ça.
Ça marche.
Et du coup, je reviens sur la gratuité. Oui. Vous n'avez pas peur en 2021 avec toutes les actions, les féministes de plus en plus, et même tout le monde en fait, de choquer avec ces paroles?
Ouais, alors pour être honnête, totalement transparent, on a évidemment... En fait, avant j'écrivais gratuitement comme ça, justement pour me défouler. Et on s'est rendu compte que des gens écoutaient la musique. Quand tu commences à faire de la musique, t'as pas forcément la portée de vouloir réussir dans la musique ou d'être écouté par un grand nombre de personnes. Au début on a fait de la musique pour faire écouter à nos copains. Et c'est vrai qu'après il y a une responsabilité qui s'ajoute quand on se rend compte que des gens écoutent et que des gens réagissent. Donc le côté rap justement petit à petit il s'est un peu dissipé. Ça s'est effacé pour montrer, mettre en avant quelque chose qu'on aime plus et qui est plus proche de nous, c'est-à-dire faire la teuf en fait. Donc voilà.
On nous a soufflé une idée tout à l'heure. Ce soir, vous partagez l'affiche avec les Vulves Assassines.
Yes.
Un clash, c'est saut 2000, mais justement, puisque vous avez grandi avec ça, un clash entre Téléraptor et Vulves Assassines, ce serait possible?
Si ça termine par un câlin, ouais.
Bonne réponse.
Moi, je voulais savoir, du coup, pour à propos du festival, qu'est-ce que vous attendez? Quelle retombée vous attendez de vous produire ce soir à Chauffer dans la Narcère?
Et on est déjà super content d'être là, qu'il y ait des retombées. C'est même pas un truc qui nous a traversé la tête, je pense. On est là pour tout donner. Après, si ça nous permet d'avoir une bière gratos ou, ou un numéro de téléphone, c'est tout ça, c'est bonus. Hein.
Non, en vrai, il faut que les gens viennent nous voir et ils vont constater que... c'est la fête quoi, on est juste là pour faire la fête avec tout le monde, tout simplement.
C'est votre première date sur l'été là?
Non, on a fait 3 dates avant, mais des petits trucs.
Et vous en avez d'autres?
Ouais. Paris, 31 juillet, soirée héros à Agency.
D'accord, cool.
Et potentiellement Bordeaux, le 28 août.
Ah, aussi. Demain collective à Bordeaux.
Avec un autre groupe qui s'appelle Brutalismus 3000, qui c'est un peu notre binôme concurrent allemand, on va dire.
Voilà. Ça envoie du rêve. Bah, surtout qu'hier en plus on parlait avec Lofo, Lofo Fora, de rap allemand, et il disait qu'il comprenait pas la démarche. Donc le fait que là tu me donnes un nom, ça va me donner envie d'aller écouter pour voir si je peux lier les deux propos.
Ça rappe pas beaucoup.
C'est plus de la eagle en allemand, on va dire.
D'accord. Ouais. Quelle surprise. Non, c'est raciste de dire ça. Merci beaucoup.
Non.
Téléraptor. On vous retrouve ce soir donc sur la scène de l'arène ou sur la scène mère? Vous êtes
arène.
Ouais. Bah ouais, du coup pour danser, vous serez au même niveau que le public. Vous avez l'habitude de ce genre de choses?
Ouais, en général, je reste pas sur la scène.
D'accord. Ça en... Allez, voilà, ça tease pour ce soir. Ouais.
Vous allez tous pouvoir faire des câlins à texto ce soir.
Merci beaucoup. Et bon concert, tout simplement.
Merci. Merci Radio 666.
Et Pulse, et Westrack, et le studio B-Prod.
Merci tout le monde.
Et la musicale. À bientôt.
Et c'était donc l'interview de Téléraptor. Tout de suite, je vous propose d'écouter un petit peu de musique, puisqu'on va écouter Magenta, anciennement Fauve, avec le titre AC, et puis on écoutera à suivre leur interview. C'est parti. Thank you.
que c'est assez ou suffisant? Est-ce que c'est assez puissant pour te retenir ici bas?
De se chauffer dans la noirceur. On est ensemble pour une interview de Magenta. Bonsoir.
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 Je laisse Maë et Héloïse prendre la relève.
Du coup, pour la petite anecdote, on a repris votre premier EP qui s'appelle C'est assez ou assez, excusez-moi. Pour prendre.
Long feu.
Ah, excusez-moi, j'étais sûre, désolée. Du coup, on va vous poser des questions en partant du principe que est-ce que c'est assez ? Et il y a une suite de questions. Héloïse.
Alors, est-ce que c'est assez d'être diffusé sur 5 radios en même temps ce soir ? Tout de suite, actuellement.
Je sais pas si c'est assez, mais c'est bien déjà.
C'est vraiment pas mal. On est vraiment sur 5 radios en même temps.
Là, tout de suite, oui.
C'est pas mal.
Dans toute la Normandie. Est-ce que c'est assez 8,1K d'abonnés sur YouTube ?
C'est pas beaucoup en fait, hein.
C'est déjà ça.
Si, c'est beaucoup. Moi, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup.
C'est beaucoup.
Si, c'est beaucoup.
Non, c'est pas Jul, quoi. C'est pas tant.
C'est pas la même musique, hein.
Je pense que c'est pas tant, non ?
Non, 8,5, ça fait 8000 personnes. Au final, on est 5 dans le groupe, on connaît bien 1000 personnes chacun. Au final, ça fait pas tant. Donc en fait, dans nos proches, ça veut dire que tout le monde n'a pas écouté. Non, mais dans l'idée.
Ok.
C'est pas encore assez.
Est-ce que c'est assez 15 dates cet été ?
Ça, c'est assez. Ça, c'est bien, c'est hyper cool. En plus, sans les masques et tout, c'est inespéré.
C'est fou. C'est vraiment fou.
Vous ne pensez pas reprendre les concerts d'aussitôt ?
Non, pas du tout.
Non, c'était habituel, l'idée que ça reprendrait jamais. Enfin, pas vraiment jamais, mais on a eu la chance de ne pas avoir annulé genre 4 tournées en fait. La première qu'on a annulée, comme tout le monde au tout début, avant le premier confinement, c'était suffisamment relou.
Et 15, c'est énorme. Et 15 festivals.
C'est plutôt 10 d'ailleurs. Mais c'est déjà génial. On ne pensait pas. Qu'on aurait ça, et surtout dans ces conditions-là. À un moment donné, quand ça a commencé à se détendre, s'assouplir un peu, il y a quelques semaines, on s'est dit « Ah, mais peut-être qu'en fait, du coup, on va se retrouver être les premiers sur le créneau après toute cette merde à refaire des concerts à peu près normaux, mais on n'y croyait pas non plus vraiment. » Parce que voilà, le chat échaudé craint l'eau froide, ou je sais pas comment on dit. Mmh. Et d'ailleurs, on félicite et remercie chaleureusement notre tourneur qui a bossé. Ils ont bossé comme des fous. Ouais.
Et justement, par rapport aux photos sur les réseaux, on voit que vous cachez tout le temps votre visage partout.
Même là, on l'a encore fait maintenant
partout,
en direct.
Si on cherche, on voit pas. Pourquoi ?
Ça a toujours été comme ça.
C'est pour se protéger, ouais, dans l'idée de se protéger. Ça sert à rien d'amener un visage, d'essayer d'être sur un piédestal, d'être mis sur un piédestal. Voilà, nous, on n'est pas comme ça, quand on préfère rester nous-mêmes et justement pouvoir se balader partout, faire ce qu'on veut. C'est très basique au final.
C'est pas conceptuel, quoi. C'est juste. Ça a été assez spontané pour nous, et plus le temps a passé, plus on s'est rendu compte qu'on avait bien fait, parce qu'on n'a trouvé aucune raison de ne pas le faire. Okay. On pourrait même dire presque l'inverse, c'est que c'est King Ju de Stupéflip, quand on lui a posé la question, il lui a toujours une espèce de cagoule à l'envers, enfin bref, et il disait, moi je comprends pas plutôt pourquoi tout le monde se masque pas en fait, parce qu'il y a un côté impudique et même un peu malsain ou dangereux, je vois là le. On est dans une tente et il y a des illustrations un peu partout, des posters, des dessins, et là il y en a une sur Kurt Cobain qui te dit, il a plus de tête en l'occurrence, et il dit salut c'est Kurt Cobain, quand on est une rockstar on est au sommet de la pyramide sociale, et au sommet de la pyramide sociale on se sent seul, mais heureusement il existe un remède, ce remède c'est la drogue. Bon bah voilà, genre sans aller jusque là, c'est pas naturel pour l'être humain, je pense fondamentalement d'avoir son visage exposé, et nous ça correspond pas à notre histoire humaine. Et on est très contents comme ça.
Donc vos visages, on peut les voir que sur scène ?
Ouais.
Est-ce que c'est assez justement de les voir que sur scène alors ?
En fait, on peut les discerner sur scène, ouais. Dans l'idée, on se montre pas, même sur scène, il n'y a pas évidemment des lumières qu'on fait exprès d'être éclairés en contre. C'est le but, quoi. On se protège, Mais le but, c'est qu'on nous voit aussi. On a un univers graphique très prononcé, on a plein de clips. L'Instagram, t'en parlais tout à l'heure, ça...
Ah.
C'est peut-être juste le retour. Non, mais bon, voilà, l'Instagram, t'en parlais tout à l'heure, et voilà, il y a plein de visuels. On essaye, enfin, le projet a une vraie identité visuelle. C'est pas parce qu'on monte pas nos visages qu'on a décidé de pas faire. Au contraire, ça génère chez nous beaucoup de contenu de choses là.
Ouais, ça pousse à trouver des solutions constructives, créatives, ludiques.
À rechercher autre chose.
Voilà, c'est et il y a des dans les personnes qui sont confrontées à ça de l'autre côté, c'est-à-dire que ce sont des photographes ou des médias, il y en a certains qui sont, c'est leur choix, qui comprennent pas ou qui veulent pas comprendre ou qui trouvent ça pénible, parce qu'on peut comprendre totalement quoi. Et il y en a certains qui par contre jouent le jeu et ça donne des choses super intéressantes aussi. Enfin, globalement, on est content d'arriver à tenir le truc pour l'instant. C'est pas toujours été simple.
Ok.
Est-ce que c'est assez 11 ans de carrière au total?
Combien?
11 ans de carrière
au total? Il y a 5 ans de vide.
En fait, ouais, c'est ça. Du coup, on avait un projet avant qui a duré 3 ans, 3-4 ans en gros, avec les tournées et tout. Et on a fait quand même 4 ans de pause pour développer le projet aussi. On a mis de gestation pour développer le projet. Et avant, ouais, voilà.
On n'a pas l'impression d'avoir 11 ans de carrière en tout cas. ça dit comme ça, ça fait un peu peur même.
Mais par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a, clairement, on a 34 ans et tu le ressens dans l'album. Clairement, on se sent dépassé par plein de choses. Typiquement, même au recommencer les concerts, on se dit ah ouais, voilà, ça c'est un concert réussi. Bon, bah nous, on en est encore à ce niveau-là. Et en même temps, on a eu une expérience, une expertise, et ça nous fait plaisir. Et on sent quand même qu'on a 10 années dans les pattes, on a un peu mal au dos quand on sort de scène, etc. Mais c'est le côté, voilà, c'est, on se rend
des
compte
avantages
de ça,
aussi.
Quoi. Ouais. C'est les avantages aussi. Et voilà, c'est les gens, je pense, de 34 ans, 35 ans, ils vivent tout ça dans leur boulot, quoi. Qu'ils soient artisans ou au final. Ou comptable, au final, ça fait 10 ans, 10, voilà, qu'ils font ça et c'est agréable d'avoir cette expertise, cette expérience.
Est-ce que c'est assez d'être H24 sur les boom bap?
C'est
sur
jamais
les
assez.
Boom bap.
Non, là, c'est jamais assez.
Ça veut dire quoi? J'ai pas compris la question.
C'est en rapport avec votre.
Ouais, le morceau boom
voilà,
bap.
Voilà, exactement. J'avais lu, en fait, pour être honnête, hein, sur Wikipédia, que boom bap, ça voulait dire d'être. Tout le temps dans la remise en question.
Ah non, ah oui, ah ouais, ok. Voilà. En fait, ah, je comprends la confusion. En fait, ok, bah du coup, je comprends la question. En fait, Boom Bap, c'est un. Ce morceau, c'est une allusion au projet d'avant et au fait d'avoir changé et le doute qui parfois nous a traversé, même assez violemment, en se disant mais qu'est-ce qu'on fout en fait, enfin, pourquoi on a fait ça, est-ce que c'était pas une énorme bêtise? Et du coup, cette époque d'avant où nos instrus étaient, comme on dit, Boom Bap, en fait, c'est un style d'instru de hip-hop. Qui souvent fait appel à des samples de loops de funk, enfin, c'est des trucs assez organiques. C'est un peu les années 90 du hip-hop, c'était beaucoup de boom-bap, comme on disait, dans les instrus. Et du coup, c'est ce qu'on faisait un peu avant, on jactait sur du boom-bap. Et du coup, la question du morceau boom-bap, c'est finalement, c'est, peut-être qu'on savait faire que ça et peut-être pas très malin d'avoir changé. Et donc, du coup, par contre, qu'est-ce que ça fait d'être. H24 en questionnement, du coup, peut-être c'était ça la question.
C'est ça, exactement.
C'est pas très agréable, hein. Mais on se serre les coudes et puis ça finit quand même toujours par accoucher de quelque chose. On doute et on se fait un peu du mal, mais on lâche jamais la rampe totalement. Et souvent, quand du coup on arrive à retomber sur nos pattes, ça donne quelque chose de, à nos yeux en tout cas, de plus profond, de plus solide, de plus justifié, de plus légitime, enfin, je sais pas comment expliquer, de plus abouti. Et donc voilà, chacun fait comme il peut ou comme il veut, mais nous, ce processus là de doute, de questionnement, d'obsessivité, d'obsession, de perfectionnement, il est douloureux, mais on sait faire un peu que ça, quoi.
Ok.
Est-ce que vous en avez assez de revenir sans arrêt sur le sujet de Fauve?
Ouais, non. Clairement, si, clairement.
Non, mais pas.
Bah, ça serait plus facile.
Ça serait plus facile.
L'idée de l'anonymat, mais... c'était aussi de préserver. On aurait largement préservé les prénoms, largement préservé le fait qu'on ait fait un projet avant qui ait autant d'incidence sur nos vies, même à nous, nos vies propres. Et donc, en fait, c'était une. Enfin, pas une idée, mais c'était une volonté de repartir à zéro et d'essayer quelque chose de nouveau.
Ça n'a pas marché longtemps.
Et ça n'a pas marché longtemps. Mais,
ça n'a pas tenu longtemps.
Après, c'était pas, le but, c'était pas de créer le plus gros secret de l'histoire de la musique française. Mais pour le coup, c'était juste de se protéger nous-mêmes et se dire, bah, si on peut le faire vivre. Si on peut faire vivre Magenta un temps comme ça, bah, ça sera parfait. Et voilà, vivre ce qu'on n'a pas vécu avec Fauve, quoi. Voilà, des nouvelles aventures, des aventures.
Non, mais oui, c'est sûr qu'il y a des. Il y a des inconvénients dans le sens où y a un biais. Et c'est sûr que nous, on n'a pas du tout réfléchi la chose comme ça. On avait juste envie de faire une musique différente, mais tous ensemble. Et on a vraiment naïvement cru que ça se saurait pas ou que ça prendrait du temps, et effectivement ça s'est su en fait le lendemain, je crois, du premier du premier clip qu'on a sorti. Et c'est vrai que ouais, il y a des moments où tu te dis j'aimerais bien qu'on parle pas de Fauve, on assume absolument tout, et c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on veut pas qu'on touche, que d'autres gens que nous touchent à Fauve, et Fauve c'est un peu un sanctuaire pour nous, on doit pas y toucher, et nous les premiers. Et du coup, quand on reparle du sujet, forcément ça embrouille un peu tout ça, mais on peut pas non plus on peut pas être mutique sur le sujet, parce que ce serait un peu ridicule, et puis c'est pas sympa, quoi, de
surtout
dire
on
n'en parlait pas de Fauve alors qu'on
final,
est fier de Fauve,
en fait,
et
souvent
ça.
Quand on nous pose des questions sur Fauve, on se dit il y a une sorte de, on a vraiment envie d'y répondre, en fait, c'est plutôt ça qui nous fait craquer, et ouais. C'est vraiment genre, c'est plutôt ça qui nous donne envie d'en parler, quoi. Au final, c'était des années magiques de nos vies, c'était un projet magnifique, et là on espère vivre des aventures similaires ou parallèles, mais en tout cas dans la même veine, et amical. C'est pour ça que la configuration, autant un peu sur scène entre guillemets ou dans, dans le projet, est, un peu, est la même. En fait, c'est plus ou moins les mêmes personnes, les mêmes acteurs. Et voilà, et on espère...
On espère qu'à un moment donné, c'est pas qu'on nous pose plus la question, mais que ce soit pas un sujet majeur. Mais c'est normal, c'est comme ça. On est réaliste aussi. Enfin, on l'a appris à l'être. Quoi. Donc oui, parfois c'est un peu relou parce que on a envie de parler de Magenta et de parler de trucs qui nous intéressent dans Magenta, mais peut-être qui intéressent que nous. Mais en même temps, c'est pas. C'est, je veux dire, c'est comme on appelle, c'est une expression, mais c'est un peu un problème de riche, c'est-à-dire que. Qu'on nous parle de fauve, ça veut dire qu'on a vécu fauve, et c'est quand même un truc de dingue, quoi. Mmh. Voilà, c'est oui et non.
C'est pas mal.
Et vous vous connaissez depuis longtemps. Est-ce que c'est assez d'être meilleur pote et de travailler ensemble depuis si longtemps? Meilleur pote depuis l'enfance, je crois.
Ouais, c'est ça. Bah, du coup, non, au contraire, travailler ensemble, c'est on se rend compte encore plus. Donc, du coup, je disais, on a 35 ans, on se rend compte encore plus que travailler avec des amis. Dans nos proches, ça n'existe pas en fait. Il y a peu de gens qui ont créé leur entreprise ou leur
projet,
oui, enfin, et qui en vivent déjà et qui en plus le vivent avec des copains, bah, c'est fabuleux quoi. Clairement, c'est la vraie chance qu'on a et dont on s'est rendu compte. Et justement, c'est ce qui reste de fauve. C'est complètement la bande d'amis, les liens amicaux, ce qui reste quoi, l'envie de créer ensemble.
Ouais, on pourrait croire que ça fout la merde ou que ça peut foutre la merde, ce qui aurait pu être le cas, hein. C'est quand même, je crois, assez classique. C'est comme se mettre en coloc avec son meilleur pote, parfois ça marche pas, enfin, y a un coup sur deux, c'est un peu à double tranchant, quoi. Mais non, je sais pas, hormis certaines périodes qui ont été assez compliquées justement pendant ces années de gestation de Magenta, on se lasse jamais d'être ensemble en fait. On est tout le temps, parce qu'on a une dynamique un peu particulière, parce qu'on est focus sur un projet en fait. C'est pas juste on se voit pour rien faire, on est tout le temps en train de travailler, en train de réfléchir à des choses, en train d'essayer de créer, et donc tout ça nous canalise et ça canalise nos relations. Et alors oui, clairement c'est difficile parfois, on s'engueule, on discute beaucoup les choses, donc parfois on se rend fou, mais on s'ennuie jamais quoi. Okay. On s'ennuie vraiment jamais, ça c'est assez ouf, et on rigole beaucoup.
Ouais. Mais j'allais justement demander si c'était assez d'être tout le temps ensemble et si c'était pas trop, mais c'est pas assez.
Là,
apparemment
voilà, c'est ma, j'ai répondu sans faire exprès, mais non, mais encore une fois, on rigole énormément. Ça se voit peut-être pas. Enfin, évidemment, c'est notre intimité, mais c'est une chance qu'on a que ça se passe bien comme ça, quoi.
Mais tu vois, tu parlais des réseaux tout à l'heure. Bah, c'est pareil. En fait, on rigole énormément au bureau, mais c'est des trucs qui transparaissent pas sur les réseaux. Entre guillemets, on n'est pas un groupe très comique. Ni avec Fauve d'avant, ni le Magenta, on est des gens qui se posent beaucoup de questions au quotidien sur nos vies, très auto-centrés, auto-portés, même si voilà. Mais par contre, on est tous amis et on rigole beaucoup. Et c'est des trucs qu'on montre pas.
Ça nous regarde aussi un peu, ouais.
Mais ouais, c'est ça. C'est pas secret, mais c'est dans l'idée. Je sais pas, c'est pas ce qu'on a envie. Le groupe, c'est pas un groupe de. Enfin, je sais pas comment.
Comment on disait à l'époque de Fauve, on prend le projet très au sérieux.
Ouais, on fait pas
ça. Nous, on se prend pas au sérieux, parce que ce serait grotesque.
Exactement, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. On se prend pas du tout au sérieux, mais par contre, en façade, ce qu'on essaye de laisser transparaître, c'est le sérieux de nos recherches et de ce qu'on essaye de bricoler, quoi. Enfin, de faire.
Est-ce que c'est assez d'avoir 6 minutes top chrono pour prouver à nos auditeurs à quel point Magenta est un super groupe et qu'il faut aller vous voir en concert et acheter l'album?
On peut parler de Magenta. Là.
Exactement, c'était le but.
Alors, bah attention, vous allez découvrir ce qu'on appelle un tunnel.
Ouais, c'est la folie, non, on n'a pas ramené notre presse, hein, nous. On vient
pas le PowerPoint.
Non, mais dans l'idée, donc on vient de recommencer les tournées, on a sorti un album récemment au mois de mai. Voilà, et du coup on le fait tourner cet été. On a eu la chance de faire une dizaine quinzaine de dates durant l'été, majoritairement des festivals. On sera aussi en tournée en automne. Et non, mais ça parle à côté, moi je peux pas me concentrer. C'est un exercice difficile en
je
plus,
sais
le
que ça te demande beaucoup en plus.
Et du coup voilà, moi je pense qu'il faut venir nous voir. Je pense que Magenta c'est un projet qui s'écoute en live aussi sur Spotify ou Deezer, je sais pas quoi, mais je pense que ça a beaucoup plus de force de venir l'écouter en live, surtout maintenant qu'on retrouve un peu notre liberté de s'amuser et de passer du temps ensemble. Et je pense que c'est de la musique sur qui se vit. Et en même temps, c'est la musique qui s'écoute sur disque, parce que c'est des textes, mine de rien, assez profonds. Il y a moins de textes qu'avec notre projet d'avant, mais mine de rien, c'est quelque chose qu'on a construit et dont on a, enfin, qui nous a longuement, enfin, qui nous a poussé à, enfin, qui a poussé notre réflexion, comme on dit, c'est mûrement réfléchi et assumé. Et du coup, il faut essayer de trouver ce qu'on a essayé de dire là-dedans. Et il y a le côté corporel très immédiat, très techno, très nouveau par rapport à notre projet d'avant. Et il y a ces textes plus profonds, peut-être plus cachés, moins dans l'immédiat, moins dans énormément de paroles, dans un flow. On est parti de ce flow justement pour l'écrémer, pour avoir des sortes de top line, des résumés, un remix de ces chansons qu'on aurait pu écrire avant. Et voilà. Et entre ce côté corporel et ce côté profond de nos textes, voilà, ça fait magenta. Et il y a encore une fois, je reboucle, mais c'est parce qu'on a 6 minutes. Et du coup, je reboucle sur le fait que je pense que c'est un projet qui s'écoute aussi en live, parce que c'est très corporel. Et on essaye énormément de nouvelles choses, de nouveautés, des trucs qui sont pas sur l'album, des modifications de chansons, des modifications de rythme, de trucs beaucoup plus encore plus corporels que ce qu'on a pu essayer de faire sur l'album. Et ce qui est génial, c'est d'avoir le terreau pour, enfin d'avoir ces 10-15 dates là qu'on a cet été pour aller défendre le projet et même le
développer, en fait. C'est-à-dire que quand on fait des concerts, on apprend aussi sur ses propres morceaux et sur son propre projet, et ensuite implémenter ça dans les futurs morceaux. On aimerait bien sortir un deuxième album dans pas trop trop longtemps pour continuer à rester sur cette dynamique. Effectivement, ouais, ça a été le fruit d'un très long travail de gestation et qui arrive à cette espèce d'objet un peu, on en est un peu conscient quand même, qui est un peu hybride, qui est pas forcément très intuitif, c'est-à-dire comme on dit entre nous, quoi, de la musique qui danse et qui pense. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire. Et du coup, peut-être que voilà, ça peut paraître à l'écoute un peu chelou, mais nous, on est assez comment dire, on ferait pas autre chose en tout cas pour l'instant. Évidemment, on a toujours envie de refaire les choses et de faire mieux, mais on changerait pas de projet en tout cas pour rien au monde. Et on a envie de creuser ce sillon là et c'est vrai que la chance de pouvoir le faire sur scène, de le montrer sur scène, à notre avis, ça explique mieux ce paradigme, comme on dit, qu'on a essayé de mettre dans le projet musicalement, c'est-à-dire de créer ce... parce que la musique électronique est un genre historiquement qui est assez délaissé par les auteurs, et nous on venait plutôt du texte, et quand on a redécouvert la musique électronique il y a 5-6 ans, ça nous a tout de suite fait envie, parce qu'il y avait un côté très hypnotisant, très apaisant, et en fait c'est comme si le flow de mots avait été remplacé par la boucle, le côté lancinant des mots était remplacé par le côté lancinant des boucles et des samples et des grooves et tout. Et à un moment donné, il y a les textes qui sont revenus, mais c'était quand même assez longtemps après. Et on s'est dit, c'est peut-être une très mauvaise idée, mais ça vaut quand même le coup d'être essayé, parce qu'en français, avec du sens et des choses qui viennent de nous, qui sont assez intimes, on n'avait pas beaucoup d'exemples autour de nous. Et du coup, ça nous a titillé un peu. On s'est dit, nous, on aime bien les trucs un peu bancals, un peu bizarres. On aime bien aller chercher des choses dans une zone qui peut être inconfortable ou pas très, qui est un peu gênante même parfois. Enfin. Et on sentait qu'il y avait un truc à faire de ce côté-là, et donc on a creusé ça. Mais le temps de gestation plus... Parce qu'à la base, la musique électronique, on n'y connaissait rien. Hein. Enfin, faut quand même savoir ça. On en écoutait à peine. Ça nous a piqué d'un coup, et on a absolument pas réfléchi. On s'est juste dit qu'on avait envie de le faire, et on a essayé. Et on continue. Mais il y a eu donc ce temps d'apprentissage, ce temps de gestation. Et en plus, il y a eu le Covid. Il y a toujours le Covid. Et du coup, c'est un disque aussi qui, finalement, a été fini et fait... dans des pièces fermées, dans des intérieurs, donc pas du tout après une expérience de club poussée, ça coïncidait vraiment pas bien, quoi. Et du coup, ça fait que le disque, il a peut-être, pour toutes ces raisons-là, pas forcément la lisibilité ou la logique immédiate d'autres projets, mais on espère qu'au fond, c'est quand même le cas et que le live permet ça, quoi, permet de le voir mieux.
Justement, moi j'avais une question par rapport aux intermittents du spectacle. Est-ce que vous avez un positionnement, peut-être que vous voulez pas vous l'exprimer, mais un positionnement par rapport au peu d'aide qui ont été apportées aux intermittents du spectacle pendant cette crise sanitaire?
C'est un sujet sur lequel on doit avouer qu'on n'est pas trop renseigné, mais parce qu'on est un peu sorti de ce truc-là, mais il y a un truc qui est clair, c'est que c'est un statut qui est super... c'est une exception quand même française, quasiment. Mais par contre, c'est quelque chose de très... C'est difficile, c'est précaire. mais c'est quand même un truc auquel il faut pas toucher, quoi. Il faut, enfin, en prendre soin. Et on n'est pas, on a tendance à garder nos positions politiques ou socio-économiques dans la sphère privée, mais il y a des sujets, quand on nous pose la question, on répond, c'est comme faux. C'est exactement la même chose. Et clairement, si à un moment donné il faut prendre parti, ce sera évidemment du côté des intermittents. Non seulement parce qu'on respecte le travail des autres, mais aussi parce qu'on a vécu, on a vu de tout près et collé au sujet pendant des années. Parce que tous nos gars, nos filles, enfin nos équipes, il y en a 90% qui étaient sous ce statut-là. Et quand tu vois la vie que c'est et la dureté du truc et en même temps l'avantage que c'est, enfin. C'est un truc qu'il faut. C'est français, et c'est, en tout cas, c'est une exception un petit peu. Il faut la préserver, il faut pas y toucher, en tout cas, il faut l'améliorer peut-être même. Mais c'est. Voilà, je sais pas quel était le sujet en question, mais en tout cas, c'est un oui.
Eh ben, merci beaucoup, Magenta.
Est-ce que
merci,
c'est assez 3-6 dans un nom de radio?
C'est assez.
Et donc, c'est une radio qui est sur Caen?
Ouais.
T'as gagné?
Moi, je suis très content d'être sur Radio 666 parce qu'en 2003, j'ai gagné Pop de Fiche. J'ai appelé à l'antenne et j'ai gagné Pop de Fiche, l'album
pendant
Pop de Fiche.
Pendant les Apéro News, certainement. Ouais.
Attends, bravo.
Je
ne
sais pas ce que c'est Pop de Fiche. Mais nous, on est, vous ne savez peut-être pas, il y a une partie du crew qui est très liée à la Normandie et qui les attache très fortes, en plus vraiment juste à côté de Montmartin.
Là, on est vraiment dans
le hood, dans le fief et une grosse partie de la bande qui a... sa bande de potes, ils ont tous fait leurs études à Caen, c'est une ville où on a été beaucoup, on connaît bien, donc big up à Caen et aux 50 et aux 14 à fond.
Et sachant que là, vous n'êtes pas que sur le 666, il y a Radio Pulse là, qui est représenté par Maë et Héloïse, et vous êtes également sur Westrack au Havre, sur Radio Sud-Manche et Radar, la radio d'Arensor.
On n'est pas sur Tendance Ouest ?
Non, ils ne font pas partie de la musicale.
Ah, ça aurait été trop bien.
Tendance Ouest.
Bon, merci en tout cas.
Merci
et puis,
à vous. Non, c'était très bien.
Merci, c'est toujours cool de discuter.
À la prochaine.
À la prochaine.
Et voilà, donc c'était l'interview de Magenta, donc anciennement Fauve. Maintenant, je vous propose d'écouter un artiste qui vient tout droit de The Voice. Il s'agit de MB14. Son instrument de musique, c'est sa voix, c'est sa bouche, puisqu'il fait du beatbox. Donc je vous laisse écouter son titre intitulé Street Light, et puis ensuite, on écoutera son interview. C'est parti.
En direct de Chauffé dans la noirceur, on est en direct, dernière demi-heure, dernière ligne droite, peut-être un ou deux artistes encore, en tout cas un c'est sûr, il est devant nous, c'est MB14, bonsoir.
Bonjour.
Et je vais laisser Maë t'interviewer.
Et bah c'est parti, comment tu vas?
Bah ça va très bien, merci, enchanté.
Est-ce que t'es content de monter sur scène ce soir?
Je suis très content, je commence un peu à stresser mine de rien, je vais pas te cacher, mais je suis très content d'être là, le cadre est super, toute l'équipe est super cool, le climat, enfin l'ambiance... Non, c'est très bon mood.
C'est un de tes premiers concerts là depuis que ça a rouvert hein, les salles de spectacle?
C'est mon troisième ou quatrième concert, je crois, depuis tous les déconfinements, tous les concerts qui reprennent et tout. Donc je me remets en jambes petit à petit. J'avais perdu beaucoup d'endurance vocale, j'avais plus l'habitude de monter sur scène, mais là ça va, je commence à reprendre mes marques.
Donc vendredi, on avait Lena Woods, que tu dois connaître.
Grave, ah, c'était là.
Exactement, oh. Avec son groupe de musique.
Okay.
Aujourd'hui, on a toi, MB14, vous venez tous les deux de The Voice.
Ouais, grave.
Est-ce que tu penses que The Voice est un réel tremplin pour une carrière d'artiste?
Je le pense pas, c'est un fait. C'est un fait, et pour beaucoup d'artistes. Tu penses à Slimane, Louane, Kenji, Claudio Capeo, les frérots de La Vega. Il y a tellement d'artistes qui sont ressortis de The Voice et qui ont réussi à bâtir une immense carrière en France et même à l'étranger pour certains, tu vois. Donc c'est de fait, c'est un tremplin de ouf. Moi, à mon échelle, ça m'a permis, même si j'ai pas forcément gagné ni fait des disques de platine, etc., ça m'a changé ma vie dans le sens où j'ai beaucoup voyagé, beaucoup fait de concerts. Je gagne bien ma vie grâce à ça depuis des années, et c'est un rêve de pouvoir vivre de ce qu'on aime, en fait. Tu sais, de se lever le matin, de pouvoir... en tout point ça puisse comme ça t'apporter dans ta vie, tu vois, que ce soit socialement, artistiquement, humainement, en termes de voyage et tout, enfin c'est ouf. Donc moi à mon échelle ça m'a complètement changé ma vie et ma carrière, et encore aujourd'hui on me parle de ce que j'ai pu faire à The Voice, de certaines prestations, etc. Donc tu vois.
Alors justement, t'es issu de The Voice, ouais. T'as une certaine notoriété maintenant grâce à cette émission. Est-ce que tu souhaiterais, ou est-ce que t'en as pas un peu marre d'être tout le temps relié à cette émission? Est-ce que tu aimerais bien te détacher?
Alors je vais même aller plus loin, je vais reparticiper à The Voice. Alors, y a deux... Après je répondrai à ta question. En fait je reparticipe à une édition qui s'appelle The Voice All Stars. En gros ils refont une édition pour les 10 ans.
C'est une exclue là?
Ouais, enfin disons que on l'a déjà annoncé sur les réseaux, il y a la pub qui passait pendant tout l'Euro là, c'est entre les matchs. En fait donc on reparticipe, c'est une édition anniversaire pour les 10 ans. Parce que là, ça fait 10 ans que The Voice est diffusé sur TF1. Et ils ont voulu faire une saison anniversaire avec des anciens talents qui ont marqué l'aventure, tu vois. Et histoire de redonner une plâtrée de The Voice à tout le monde, tu vois. Et du coup, en fait, c'est pas que j'en ai... Non, j'en ai pas marre. Dans le sens où je me dis, de toute façon, c'est totalement... Moi, je suis quelqu'un de très réaliste. Donc je me dis, c'est logique, en fait, que les gens parlent encore de The Voice. Ça tient qu'à moi, maintenant, de fournir assez de travail et de musique et d'univers artistique pour que vraiment ça puisse prendre et que les gens puissent passer au-delà de la performance et s'attacher à l'artiste, on va dire, tu vois. Et ça tient qu'à moi, donc je sais pertinemment que tant que j'aurai pas sorti d'album ou de son qui sont bons et qui marchent bien et que le public reçoit, etc., bah forcément les gens vont se repérer à ça. C'est comme dans la rue tu vas croiser un mec qui est grand. Tu vois, et tu sais, pour le repérer dans une foule, tu vas dire ouais, c'est le grand là-bas. Tu vois ce que c'est très con, mais c'est l'être humain qui est comme ça, on va dire, tu vois. Donc je sais que c'est à moi de me démarquer autrement que par ce facteur-là de The Voice. Et c'est pour ça que je l'accepte. Et de toute façon, je crache pas dans la soupe parce que The Voice m'a énormément apporté. Ça m'a permis de vivre tellement de choses. Et de toute façon, je sais que musicalement, je parle beaucoup, hein, désolé. Je sais que en soi. Les gens me connaissent sur The Voice, mais je sais que musicalement, j'estime en tout cas proposer assez de choses en termes de diversité pour pas que ce soit quelque chose de négatif. Tu vois ce que je veux dire? Et fait voilà, j'ai eu la chance d'aller en finale. Enfin, ça reste quand même une expérience de ouf, et donc je suis content quand même, tu vois.
Qui serait renouvelé pour le coup?
qui sera renouvelé.
Est-ce que tu peux nous dire quand et comment t'as commencé, découvert le beatbox?
J'ai découvert le... Alors, le plus lointain souvenir que j'ai de beatbox, je sais pas si... Je savais même pas que ça s'appelait du beatbox, mais en gros, j'avais une voiture télécommandée. Je devais avoir 7 ans, 8 ans. Et je sais que quand j'appuyais sur le bouton de la voiture, ça faisait... Tss, tss, tss. Et c'est, je crois, le premier souvenir que j'ai de moi en train de faire des bruits et de refaire de la musique, tu vois. Après, j'ai vraiment pris une claque de beatbox. C'était par exemple sur La Nouvelle Star. T'avais un beatboxer qui s'appelait Poulpo. C'était il y a très longtemps qu'il est arrivé. Il avait fait le... Enfin, c'était en 2007, quoi. Donc voilà. Et après, c'est le groupe Naturally 7, qui est un groupe vocal, un groupe new-yorkais. Ils avaient fait une reprise de Phil Collins dans le métro parisien. Enfin, voilà. Ça va faire, je pense, bien 10 ans, quoi, que je bouffe du beatbox tous les jours.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire ta carrière ?
Qu'est-ce qui m'a poussé, je sais, je dirais, en fait, c'est la passion de ce truc-là qui m'a amené à en faire tous les jours. Et plus j'en faisais, plus j'avais envie de faire que ça. Mais après, c'est surtout aussi que j'ai eu de la chance, en fait, que, bah, tu sais, d'avoir été sélectionné pour un gros battle de beatbox en 2015, qu'ensuite y ait The Voice qui est suivi. Putain, ça c'est, en fait, je l'ai voulu très fort. J'ai fait tout ce que je pouvais pour, mais je l'ai pas forcément contrôlé. Je pensais pas que ça prendrait cette tournure-là, tu vois. Et j'en suis très content. Et non, je pense que en fait, c'est surtout que moi, j'ai toujours voulu vivre de ce que j'aimais, tu vois. Par exemple, avant le beatbox, j'ai commencé à faire du théâtre. Et depuis que j'ai 14 ans, je rêve d'être acteur, tu vois. Et là, récemment, j'ai eu la chance de tourner un film. Et tu vois, je pensais juste que je voulais faire ce que j'aimais. Et ça a toujours été comme ça, tu vois. Et j'ai eu la chance que ça se passe bien pour l'instant. Donc voilà.
Est-ce que tu as des projets ? Pour les mois, les années à venir?
Oui, déjà, j'attends, ça va être long, mais j'attends la sortie de ce film en question, qui devrait sortir normalement en 2022, 2023 peut-être. Et sinon, en projet, ce serait de sortir... J'ai du mal à sortir des morceaux, en fait. Tu sais, à les finir, à aller au bout, j'ai beaucoup de mal. Je reviens toujours sur les trucs, etc. C'est jamais assez bien. Et donc voilà, ça serait dans l'idéal de sortir des morceaux cette année, peut-être un album l'année prochaine. Après voilà, ça serait l'idéal, ça serait faire du cinéma et de la musique en même temps, tu vois. On va dire tourner des films et sur mon temps libre faire de la musique. Voilà, continuer le sport à fond. Voilà, à court terme peut-être aller vivre à Marseille. Voilà, tu vois.
Et lors de tes concerts, est-ce que tu as des messages ou des émotions que tu souhaiterais transmettre aux spectateurs qui te regardent?
C'est plein de choses. Déjà, j'ai envie que les gens kiffent. C'est bête, mais c'est vrai, en vrai. C'est jouer devant des gens, c'est très stressant. C'est beaucoup de pression, donc j'ai envie que les gens passent un bon moment, qu'ils soient contents, que ça crie, que ça rigole, que ça chante, que ça danse, etc. Après, en termes de messages, pour l'instant, j'ai pas encore suffisamment creusé cet axe-là, on va dire. Mais il y a un truc, c'est le côté de croire en... Enfin, ça peut paraître cliché, le côté croire en ses rêves, tu vois. Mais c'est vraiment de croire que les choses qu'on espère tous, on a tous des rêves, des ambitions, des buts, etc. C'est de tenir le cap et de faire en sorte de tout donner pour que ça arrive, parce que c'est vraiment possible. C'est-à-dire que moi, je me souviens à un certain âge quand je rêvais que de ça et que je me disais putain, mais est-ce que je vais y arriver un jour, machin, machin. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre ce rêve-là et c'est un truc que petit à petit, je commence à vraiment essayer d'incorporer dans mes morceaux. C'est donner de la motivation, donner de l'espoir, de la bonne énergie, quoi, tu vois, sous plein de formes différentes.
Il y a moyen que tu nous fasses un petit freestyle?
Le beatbox?
Ouais.
Ok.
Avant-goût pour ce soir, merci beaucoup MV14.
Merci beaucoup.
Dernière
merci
question pour clôturer justement, parce que ce que tu viens de faire, ça m'a rappelé quelque chose, ce que tu disais aussi. Il y a, voilà, tu parlais d'années. Moi, il y a quelques années, sur Nordic, un festival de musique électronique à Caen, il y a un beatboxer qui est venu, je me souviens même plus de son nom. Et on lui avait posé la question si c'était un talent.
Est-ce que tu peux me le décrire, peut-être que j'arriverai à me souvenir de lui.
Impossible. En fait, même, tu vois, je te dis impossible. Et
tu te souviens même plus du show en question?
Je me souviens plus du show. Par contre, ce que je me souviens, et c'était une vibe qui m'avait bien porté, il disait que le beatboxing c'était un instrument et que tout le monde pouvait l'apprendre, tout le monde pouvait en faire. T'es d'accord avec ça?
Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'on est tous.
C'est pas un talent.
Bah en fait le talent il est plus dans enfin comment dire. Brel il disait il n'y a pas de talent, il n'y a que l'envie de faire quelque chose.
Ouais.
Il y a un peu de vrai, enfin, il y a du vrai dans ce qu'il dit, c'est dans le sens en fait on est tous constitués de la même façon, on a tous des dents, une langue, une gorge, un larynx, des cordes vocales, etc. On est tous constitués anatomiquement de la même façon, ce qui fait que moi si je peux le faire, c'est sûr et certain que tu peux le faire. Maintenant ce qui va jouer dans le fait que tu puisses y arriver, c'est ta motivation, ton envie, ton plaisir, ta facilité à comprendre les sons, à les intégrer, à imiter, etc. Donc je pense que le talent en soi, il se situe hors du beatbox en lui-même. C'est plus dans comment ton cerveau va analyser les sons, va les interpréter, les comprendre, les imiter, les traduire dans ta tête, tu vois. Et moi, je pense que c'est ça, c'est que depuis que je suis petit, j'ai toujours eu cette facilité à imiter les gens. J'imitais mes profs, mes potes, tu sais, les voix que j'entendais à la radio, des bruits d'animaux, des trucs à la con, comme ça. J'ai toujours été dans l'imitation, ce qui fait que ça m'a aidé cognitivement à pouvoir progresser beaucoup plus vite en beatbox parce que je vois les sons en fait. C'est bizarre, mais mon cerveau il convertit les sons en images et ça m'aide beaucoup.
La transition que tu es en train de nous faire,
c'est vrai,
je pense. Ouais, ouais. Parce qu'on va devoir, effectivement te libérer.
Mais c'était un plaisir.
Et on va accueillir Irène Drezel pour clôturer ces 3 jours d'émission spéciale en direct. Et en direct du festival Chauffé dans la noirceur, 29e édition, la 30e l'année prochaine, qui coïncidera en plus avec les 30 ans du Festoche. Merci MB14, bon concert à toi ce soir.
Et voilà, donc c'était l'interview de MB14. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'interview d'un groupe punk qui s'appelle Balafre, qu'on a eu la chance d'interviewer pendant le même festival. Allez, je vous laisse écouter.
17h40, on est un petit peu en retard, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Vous êtes toujours en direct du plateau de la musicale Radio Pulse 666, Radio Sud Manche, Radar et Westrack se sont associés à l'événement pour vous proposer en fait ce qui se passe sur le festival Chauffé dans la noirceur. Pendant les 3 jours, là on est sur le samedi, c'est complet malheureusement, donc on essaye de vous retransmettre au mieux l'ambiance qu'il va y avoir dès ce soir pour les concerts. Et là on est avec Balafre, salut. Alors d'ailleurs on dit Balafre ou Balafré, j'ai lu les deux sur internet. Hein.
On dit Balafre.
On dit Balafre. Cold Punk, c'est ce qui est écrit. Un titre, The Floor, que j'ai pu entendre, il y en a d'autres qui sont disponibles quelque part?
Alors pour le moment pas vraiment, puisqu'on a un label et donc il vient juste de sortir notre premier single, c'est pour ça qu'on n'a pas par respect pour le label sorti les autres titres, mais
ouais, parce qu'il sort en physique en fait en vinyle et du coup il y a du retard dans le pressage, donc il sort pas avant la fin de l'année.
D'accord.
Donc en attendant on met pas tout
du coup ça sera full découverte ce soir en live et ça me plaît bien parce que ce que j'ai déjà entendu c'est nickel. Alors là on entend plein de monde parce que vous êtes 4 et c'est très bien que vous soyez nombreux, mais les auditeurs les plus assidus de 666, en tout cas ceux qui ont une très bonne oreille, ils devraient vous reconnaître, même chez Pulse d'ailleurs, puisque Balafre c'est lié à Sugarton Cabaret, Carrison, Ocytomore, The Eye of Time. En fait vous jouez presque à la
et
maison,
et Pandé aussi,
et Pandé que j'ai, ouais, je l'ai pas lu, j'ai une très mauvaise vue, hein, c'est ça la vieillesse. Du coup, bah, vous jouez carrément limite à la maison, parce que bon, bah, ça veut dire que là, quelque part, je ne saurais pas le reconnaître. Bon, pourtant, je vous ai vu en concert. J'ai l'autre moitié de Carrison. La première moitié de Carrison étant Nico, qu'on salue, qui a été 5 ans à la radio en soutien de Philippe. Donc, on le salue d'ailleurs. Donc, bah, du coup, qu'est-ce qui a amené toutes ces structures à se retrouver autour de Balafre?
En fait, on a bossé ensemble sur un film à Caen.
Ouais.
On se connaît depuis longtemps, moi, Milouz et Marc, on se connaît depuis longtemps. Marc a rencontré Camille sur ce film et comme on est tous les trois fans de musique et qu'on avait des choses encore à fabriquer, on s'est dit qu'on pouvait, pour rigoler, faire un truc tous les trois. Et donc, on a un peu démarré chacun nos instruments, sauf Marc qui est maître expert en guitare, mais nous autres, on est un peu débutants. Et puis Adrien, qui est là à côté de moi, là. Tu dis bonjour, Adrien.
Bonjour.
Qui est guitariste aussi de formation.
Et qui nous a rejoint lui il y a 2 mois. Il y a 2 mois à peine, voilà.
Du coup, Cold Punk, c'est vous qui avez mis cette étiquette ou c'est celle qu'on vous a claquée comme ça, là sur l'affiche?
Personne, les gens parlent pas trop de nous pour le moment, donc c'est nous.
C'est
nous,
ouais. Tout ça. C'est quand je vous ai écouté, j'ai tout de suite pensé, alors c'est méchant de dire ça parce que généralement on aime bien les artistes avoir son propre univers, mais il y a du Incubus Succubus dans la voix, je trouve.
Merci.
Ouais. Non mais c'est direct ce que j'ai pensé. Et du coup, j'ai tort, j'ai raison, c'est une influence, pas du tout.
Ben, c'est pas vraiment une influence, mais ça me fait plaisir de, de l'entendre en tout cas.
Du coup, 4ID, tout ça, c'est des, ça rentre dans l'univers Cold ou
c'est, je connais pas les groupes que tu cites.
Ah, là, je cite le label. On dit 4AD en fait en français, c'est vrai. Mais, excuse-moi. Ouais. Mais justement, c'est très typiquement cannais, je trouve. Enfin, sur la scène DIY cannaise, on se retrouve souvent avec des groupes qui pourraient être liés à la et qui se lient à la scène post-punk. Enfin, en tout cas, ce renouveau qu'il y a là depuis le milieu des années 2010 et qui pourtant viennent d'horizons musicaux qui sont pas du tout issus de ça à la base. Ça s'explique. Il y a quelque chose dans la bière à Caen qui fait que, ou dans le cidre peut-être.
Je crois que c'est lié à l'âge en fait et les, ouais. Nos jeunesses dans les années 80.
C'est fou, c'est Cemented Mind, mais exactement fait la même réponse.
C'est ouais, parce que je leur avais dit avant. Ah. Je remercie Antoine qui me prête d'ailleurs de Cemented Mind, qui me prête des éléments de batterie parce que je suis un clochard de la batterie.
Ah oui, on salue Antoine. D'ailleurs, si vous avez besoin de vous remonter le moral de temps en temps, allez voir la page d'Antoine. C'est important. C'est un message d'intérêt général. Ça. Si vous passez une mauvaise journée, allez sur la page Facebook d'Antoine. Vous en ressortirez avec un grand sourire. Du coup, combien de titres de prévus sur l'album qui doit sortir, qui devait sortir, mais qui n'est pas encore sorti?
Alors, c'est un 4 titres.
Ouais.
Voilà.
Et ce soir, combien de titres en live?
7.
Waouh! Un album de prévu, du coup?
Oui, un peu dans les tuyaux quand même, c'est un peu l'idée, oui.
Oui, c'est prévu quoi, c'est juste qu'en fait là, il n'y a que 4 titres parce qu'on voulait faire vraiment juste une démo en fait. Mm-hmm. Et puis en fait, au fur et à mesure, on a fait ça plus sérieusement jusqu'au bout. Et puis après en fait, un label a voulu sortir, donc on s'est dit, bah, pourquoi pas.
Et donc, on voilà. Peut le citer le label parce qu'on ne l'a pas cité tout à l'heure.
Oui, c'est Moment of Collapse, un label allemand de Hambourg.
D'accord.
Voilà.
Ok. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des choses à rajouter, mesdames? Point du tout. Si.
Bah après tant d'attentes avant de remonter sur scène, moi j'aurais bien aimé avoir votre ressenti avant de monter sur scène justement ce soir. Comment vous vous sentez?
Eh ben moi personnellement, je pense que pour les autres c'est pareil, mais ça fait carrément du bien en fait. Parce qu'on a joué hier soir et on a pu jouer encore il y a deux semaines. Et ça fait vraiment un bien fou quoi. Enfin là ça, c'était hyper essentiel quoi.
Ça fait du bien de faire autre chose que des répètes. C'est pas la même ambiance,
je me doute bien. Et donc là, vous connaissez bien le festival. Est-ce que vous attendez certaines retombées du fait de vous produire ce soir?
Bah, jouer à Coachella l'année prochaine, par exemple. On va commencer petit, quoi, et puis après on verra.
Il y a un partenariat, je crois, chauffer Coachella.
Coachella, ouais, ouais.
S'il y a moyen de dans les tuyaux.
J'ai cru entendre qu'il y aurait Robert Smith ce soir dans le public.
Et oui, c'est moi qui l'ai invité.
En tout cas, il est à côté de vous là. C'est pas très radiophonique, mais. Et on aura presque rattrapé notre retard. Balaf, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci
bon concert.
Merci.
Est-ce que vous avez d'autres dates prévues cet été?
Non, malheureusement.
À l'automne, parce qu'on. On est trois à aller travailler dans le sud de la France de août jusqu'à septembre. Donc
trop
peut-être. C'est trop dur la vie, on travaille à Montpellier. Et non, du coup, on va certainement faire des dates à la rentrée, enfin plutôt vers l'automne.
Ouais.
Et une tournée certainement à la fin de l'année ou début d'année prochaine. Voilà.
D'accord.
Plutôt en Europe.
Tout en Europe, cool.
On a un peu commencé ça, pas comme une blague, mais un peu quand même. Et du coup, ouais. On se prend un peu à notre propre jeu en ce moment, donc faut nous laisser le temps.
Il y a quoi comme date en Europe, du coup? Si vous savez déjà que c'est l'Europe, ça va se passer où?
Tokyo.
Allemagne, ben, Pologne.
Pays de l'Est, quoi, je pense surtout. Allemagne de l'Est, République Tchèque, Pologne, voilà.
Ukraine.
Et les jauges, là, des derniers concerts que vous avez fait, là, sur les trois derniers jours, ça matche celle-là ou ça va être le premier gros concert?
Ouais.
Ça, et donc, du coup, comment ça se gère, ça?
Bah, ce soir, ça va être plutôt intime, là, ces petits concerts ce soir. Parce qu'à Gouville-sur-Mer, hier, au bar devant la mer, il y avait quoi, 5000 personnes sur la plage?
Ouais, voilà, c'est ça. Bah, les gens nous ont arraché tous nos vêtements, c'était la folie, quoi. On a dû sortir par l'arrière dans la limousine.
Non, mais c'est vrai qu'on a quand même bien flippé, en fait... Quand il nous a annoncé, Isia, qu'on jouait sur la grosse scène à 23h40 le samedi.
En plein peak time,
ouais.
On avait un peu les miquettes quand même.
Parce qu'on avait proposé Balaf, parce que, ben voilà, comme on avait déjà joué plusieurs fois ici, on s'est dit ouais c'est cool le troisième œil déjà si on peut jouer à 20h tu sais, il y a un truc comme ça.
Il n'y a pas de troisième œil cette année.
Et après paf là ça vous a bien mis la pression.
Ouais. Ouais. Il a mal lu le mail en fait donc la grande scène directe. Si vous n'étiez pas prêt.
C'est ça.
Bah du coup vous allez envoyer. Bon courage.
Ouais, on va essayer.
Merci.
Merci beaucoup.